Alors avant de poursuivre le texte dans lequel nous sommes, quelques mots sur la méditation. Pourquoi est-ce que le bouddhisme, le dharma, accorde autant d'importance à la méditation? Le dharma fonde toute sa doctrine sur le fait que tous les êtres, quels qu'ils soient, sans exception, est en quête de bonheur. Tous les êtres sont en quête de bonheur. Il n'y a pas un seul être qui souhaite souffrir, qui souhaite la souffrance. Le Dalai Lama, le week-end dernier, a rappelé cela. Même les animaux, même les insectes, observez-les, dès qu'ils sont près d'un danger, près d'un prédateur, etc., ils n'ont qu'une hâte, c'est de se protéger, de se mettre à l'abri. Et toute notre vie, nous cherchons à être heureux. Et nous faisons tout pour être heureux. Observez toutes les décisions que vous avez prises dans votre vie, c'était pour être heureux, d'après la conception du bonheur que nous avons, les uns et les autres. Mais nous sommes tous en quête de bonheur. Et le Bouddha a constaté que malgré cette quête, nous souffrons tous. Nous rencontrons tous dukkha. Ce terme sanskrit, qui a un sens plus large que simplement la souffrance, mais la souffrance physique, ça inclut la souffrance physique, ça inclut la souffrance mentale, morale, mais ça inclut aussi l'insatisfaction, la frustration, le mal-être, ça ne va pas comme on veut, quoi. Voilà. Ça, on vit ça quand même à longueur de journée. On est peut-être bien portant ce soir, on n'a peut-être pas de grosse déprime, mais qui peut dire que depuis ce matin, nous n'avons pas rencontré dukkha, quoi. Il fait chaud, il fait froid, il fait ci, il fait là, on est en retard, l'autre m'a regardé de travers, ça ne va pas comme on veut, bon, etc. Eh bien, tout ça, c'est dukkha. Et ça, ça a été vraiment le constat du Bouddha. On veut tous être heureux, mais on fait tous, malgré nous, l'expérience de dukkha. Ça, c'est la première noble vérité. La base de l'enseignement bouddhiste, de la doctrine bouddhiste. Donc la base, hein, pour les personnes qui viennent la première fois, la base du dharma ne répond pas à la question « est-ce qu'il y a un créateur ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce qu'il y a un dieu ou pas ? Comment l'origine du monde ? Quelle est l'origine du monde ? Etc. » Si vous cherchez ça, si vous cherchez une réponse à ces questions-là, pas besoin de venir ici. Vous ne les trouverez pas dans le bouddhisme. Le bouddhisme ne répond pas à ces questions-là. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est nous sommes tous en quête du bonheur et nous souffrons tous. Alors ça, la deuxième noble vérité, c'est mais d'où provient cette souffrance? Quelle est l'origine de cette souffrance? Parce qu'avant de chercher des remèdes, un traitement, il va falloir identifier quand même la cause. Parce que si l'on n'identifie pas correctement, précisément la cause, toutes les mesures que l'on risque de prendre pour ne plus souffrir, ça risque de tomber à plat, quoi. Et c'est un peu ça que nous vivons, quand même, hein. Nous souhaitons être heureux, nous sommes engagés dans certaines choses pour faire en sorte que nous soyons heureux, et on constate que, ça ne pallie pas à toutes les différentes facettes de dukkha. Donc il faut bien identifier l'origine. Pour moi, c'est la deuxième noble vérité qui est la plus importante. Et dans le bouddhisme, dans le dharma, l'origine n'est pas vue à l'extérieur, n'est pas vue dans les circonstances, dans les situations. Évidemment, le bouddhisme ne nie pas que les situations vont avoir une influence quand même sur nous. Évidemment. Mais fondamentalement, l'origine ne se trouve pas à l'extérieur de nous, elle se trouve en nous. C'est comment notre esprit réagit par rapport à ces circonstances, par rapport aux situations quotidiennes que l'on vit. Vous avez des personnes qui vivent la même situation, mais une va réagir d'une certaine façon, et sa réaction va apporter tout un lot de frustration, voire de souffrance, et l'autre va réagir d'une autre façon, et ce n'est pas l'indifférence qui va s'installer dans son esprit, mais malgré la situation qu'elle rencontre, son esprit va rester paisible. Donc si vraiment on veut mettre un terme à cette souffrance, il faut absolument transformer cette façon de fonctionner ordinaire de notre esprit. La troisième noble vérité, c'est qu'il y a une cessation possible. Si je modifie ce fonctionnement-là, eh bien, la cause disparaît. Donc, si la cause disparaît, la souffrance qu'elle engendre disparaît. C'est la vérité de la cessation. Et la quatrième, c'est la vérité du chemin qui conduit à cette cessation. Et le chemin passe principalement par la méditation. Parce que cette cause se trouvant dans mon esprit, eh bien, je dois modifier ce fonctionnement de l'esprit si je veux me libérer de cette souffrance. Mais pour se libérer de quelque chose, si l'on veut se libérer d'une maladie, il faut encore comprendre que nous sommes vraiment, admettre que nous sommes vraiment malades. Donc je pense que dans la méditation, il est très important de prendre conscience que ce fonctionnement ordinaire de l'esprit pose un problème. Pose un problème pour moi, mais pose un problème aussi pour les autres. Parce que ma façon de réagir va avoir un impact sur moi, mais ça va éclabousser les autres. Je ne vis pas tout seul dans mon coin. Je suis en relation avec les autres. Donc ma façon d'être, ma façon de réagir, eh bien, va avoir une répercussion sur les autres. Et je pense que quand on commence à méditer, eh bien, il faut observer ce fonctionnement de l'esprit. Et observer le fonctionnement de l'esprit, ça ne veut pas dire porter un jugement sur le fait d'avoir de la colère, d'avoir de la jalousie ou de l'attachement, etc. C'est observer un petit peu comme un médecin pourrait observer les symptômes. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est comme ça. Et je constate, je prends conscience que ce fonctionnement-là crée de la souffrance en moi. Et sous l'emprise de ce fonctionnement-là, eh bien, mon attitude va être cause de souffrance pour autrui. Or, toute la finalité de la voie bouddhiste, c'est se libérer de la souffrance, de toute forme de souffrance. Donc, il faut absolument faire le lien entre la souffrance et le fonctionnement de mon esprit. Parce que si je fais ce lien, je peux comprendre, je comprends à ce moment-là, que si je modifie ce fonctionnement, eh bien j'avance vers la libération. Je me libère petit à petit. Mais ça veut dire que si les autres peuvent m'aider, si l'environnement peut m'aider, si les circonstances peuvent m'aider, elles ne peuvent pas, personne autre que moi, ne peut faire cette transformation de mon esprit, de ce fonctionnement de l'esprit. Et ça, c'est un élément mais extrêmement important. J'allais dire, n'attendez rien de qui que ce soit, quoi. Vous pouvez trouver de l'aide. Ce week-end, on a trouvé de l'aide par la présence du Dalai Lama, par ses enseignements, par la profondeur de ses enseignements. Mais si on ne les met pas en pratique, est-ce que ça transforme notre esprit? Mais pas d'un iota, quoi. Donc bien sûr qu'on a besoin de recevoir des enseignements. Bien sûr qu'on a besoin de connaître la méthode. Mais à nous de prendre le médicament. Si vous laissez votre médicament sur votre table de nuit sans le prendre, les symptômes seront toujours là, quoi. C'est exactement la même chose. Le Bouddha prenait cet exemple, hein, du malade et du traitement. Si le malade ne suit pas le traitement, ce n'est pas la faute du médecin. Hein. Le médecin, c'est le Bouddha, si vous voulez. Nous sommes malades. Bon, le Bouddha a proposé un traitement. Mais à nous de voir si ce traitement fonctionne ou pas. Alors là, on touche un deuxième point important dans le dharma. Il n'y a pas de place pour la foi aveugle, naïve. Je fais ça parce que le Bouddha ce week-end, parce que le Dalai Lama ce week-end a dit que c'était bien de faire ça. Ça, c'est une démarche qui ne devrait pas exister dans le bouddhisme. Un pratiquant du dharma est quelqu'un qui reçoit une instruction, qui se dit « cette instruction a du sens, je pense que ça peut m'apporter quelque chose, mais mettons-la en pratique et voyons si ça apporte réellement quelque chose. » Et c'est nous, c'est notre expérience méditative qui doit prouver, qui doit authentifier l'enseignement du Bouddha. C'est par notre expérience que nous allons authentifier la voie, que nous allons authentifier les instructions que le Bouddha a données ou que tel maître aujourd'hui peut nous donner. Cette notion d'expérience personnelle est très importante dans le dharma. Nous n'avons pas à croire que si je vous dis que de méditer de cette façon-là, ça va apporter une pacification mentale. Vous n'avez pas à croire ça. Repartez ce soir en vous disant, je veux voir si ce qu'il dit, ça marche. Voilà. Mettez en pratique, 20 minutes tous les jours, et revenez me voir dans 3 mois. Et dites-moi si ça fonctionne ou pas. Mais c'est à vous de prouver, d'authentifier que l'enseignement du Bouddha est toujours valable aujourd'hui. Donc il n'y a pas du tout de place pour une espèce de foi d'application d'une instruction parce que c'est le Bouddha qui l'a dit, alors c'est du respect pour le Bouddha ou du respect pour le Dalai Lama, etc. Alors je vais appliquer ça. Nous sommes responsables de notre cheminement spirituel. Donc la méditation, eh bien, ça va permettre à notre esprit de fonctionner autrement. Jusqu'à présent, par exemple, ce soir, j'ai expliqué qu'il faut laisser passer les choses, laisser passer les pensées, les phénomènes, etc. Pourquoi on commence par apprendre à laisser passer? Parce que sans cet apprentissage, on s'agrippe à absolument tout. La moindre pensée qui traverse notre esprit se scotche dessus. Et quand vous analysez ça, quand vous observez ce fonctionnement de l'esprit, vous vous dites, mais si je repense, si je pense à quelque chose, à une situation qui m'a fait beaucoup souffrir, il y a 6 mois par exemple, eh bien je vais souffrir à nouveau. Et je ressens à nouveau de la souffrance. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est le fait de penser à cette situation qui me fait souffrir? Ou est-ce que ce n'est pas le fait de m'accrocher à cette pensée? Il faut identifier ça. Si vous pensez qu'il ne faut plus penser pour ne pas souffrir, vous êtes sûr de vous planter. Parce que la conscience mentale, c'est le domaine des pensées. La conscience mentale, tant qu'elle fonctionne, vous penserez. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, méditer pour ne plus avoir de pensées, c'est complètement stupide, quoi. La conscience visuelle, si elle fonctionne, ben vous voyez. Hein. Alors c'est un peu, méditer pour ne plus avoir de pensée, c'est aussi stupide que je suis là les yeux ouverts et je médite pour ne plus voir. Quoi. Ben je peux attendre longtemps, hein. Je peux m'entraîner. Hein. On a cette faculté de penser plus développée encore que dans le monde animal, par exemple. On a la faculté du souvenir, de la mémoire. Donc on aura toujours des pensées par rapport à ce qu'on a vécu, etc., qui traverseront l'esprit. Mais faites expérience que, et puis les pensées aussi relatives au futur, mais faites expérience que ce n'est pas le fait d'avoir une pensée par rapport à une situation difficile qu'on a vécue qui nous replonge dans la souffrance. C'est le fait de la saisir, le fait de s'agripper, de la solidifier, de la retenir. Ne paniquez pas si vous avez ce genre de pensée. Dites-vous, tiens, là voilà, c'est normal, c'est un souvenir, mais je la laisse passer, quoi. C'est pas de l'indifférence. Vous êtes conscient de ce qui se passe et vous la laissez passer. Là, vous pouvez expérimenter que si vous ne la fixez pas, eh bien votre esprit reste tranquille et paisible malgré la présence de cette pensée. Donc, cette pensée n'est plus vue comme une ennemie. Et vous avez des personnes qui ne trouvent comme moyen pour ne plus souffrir que de dormir. Parce que pendant ce temps-là, elles ne pensent plus, quoi. Mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, la méditation, qui n'a pas été enseignée uniquement par le Bouddha, ça a été enseigné aussi dans l'hindouisme avant, etc. Mais le Bouddha a vraiment beaucoup insisté sur cette méthode qu'est la méditation. Ça consiste à comprendre le fonctionnement de l'esprit et à s'entraîner à fonctionner autrement. Et c'est ce que veut dire méditer. C'est, je prends conscience que ce mode d'action, ce mode de fonctionnement, eh bien, fait naître la souffrance comme expérience, mais je peux expérimenter aussi avec l'entraînement régulier, hein, eh bien que si j'applique à méditer, eh bien ce fonctionnement se transforme et il y a moins de souffrance. Et là, j'avance petit à petit vers la libération de dukkha, vers la libération de la souffrance. Mais alors le remède, il ne peut pas être pris une seule fois. C'est-à-dire que si vous avez un traitement de 6 mois, une pilule tous les jours, bah vous allez prendre votre pilule tous les jours, parce que sinon ça ne va pas marcher, quoi. Pour la méditation, c'est pareil, et je compare souvent la méditation à l'apprentissage d'un instrument de musique ou à un apprentissage sportif. Si vous faites vos gammes une fois tous les 15 jours, ça va être dur et long pour devenir un bon pianiste. Hein. Mais si vous faites vos gammes tous les jours, il y a des progrès inéluctablement qui se produisent. Idem pour la méditation. Mais vous ne pouvez pas non plus faire 6 heures de gamme dès le premier jour, quoi. Ça va saturer. Idem pour la méditation. Vous ne pouvez pas vous dire, ok, d'accord, allez, à partir de ce soir, c'est septembre, c'est la rentrée, pof, maintenant, 1 heure de méditation tous les jours. Vous ne tiendrez pas. Donc, ne mettez pas la barre trop haut. Dites-vous 20 minutes. Tout le monde peut trouver 20 minutes dans une journée. Ne serait-ce que pendant les pubs, à partir de 20h30, hein, entre deux, avant le programme du soir. C'est très... Voilà, vous dites, ah bah tiens, il me donne l'opportunité là de faire mes 20 minutes de méditation. C'est très bien. Mais, par contre, prenez l'engagement, je ne vais pas me coucher avant d'avoir fait mes 20 minutes. Et là, vous aurez des résultats. Mais si vous dites 1 heure tous les jours, si vous vous ennuyez au bout de 10 minutes, il y en a encore 50 à tirer. Hein. Par contre, si vous dites prenez 20 minutes, si vous vous ennuyez au bout de 10 minutes, il n'y a plus que 10 minutes à faire. Là, vous pouvez être patient. Et on a tous commencé comme ça. Mais on a tous commencé à vouloir mettre la barre trop haut aussi. Hein. Alors, découragement, hein, quand on n'y arrive pas. Oh oui, je ne tiens pas ce que j'ai décidé, etc. Non, il faut revenir mettre la barre un petit peu plus bas. Mais c'est l'entraînement qui peu à peu transforme notre esprit. Voilà, donc on reprend le texte. Alors encore une chose, quand on parle de calme de l'esprit, ne pensez pas qu'il faut créer quelque chose, qu'il faut créer un état de calme dans votre esprit. Vous avez peut-être lu des choses sur le calme de l'esprit, sur la méditation du calme, etc. Alors il est dit que oui, en résultat, l'esprit, bien quand il est calme, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Et alors on se dit, bon, alors puisqu'il doit être calme, alors le calme, c'est, il faut que j'établisse ça dans l'esprit. Là, ça ne marchera pas. Le calme n'est pas synonyme d'un esprit dans lequel il ne se passe plus rien. Il y aura encore des perceptions, des sensations, des pensées et tout ça. Donc le calme, ce n'est pas synonyme, il n'y a plus de phénomènes. Tous ces phénomènes se produisent, mais si je ne saisis pas ces phénomènes, si je ne m'y accroche pas, si je les laisse passer, malgré l'apparence de ces phénomènes, mon esprit reste tranquille et paisible. Et c'est ça l'expérience du calme mental. Il y a quelques mois de ça, quelqu'un a demandé au Dalai Lama s'il lui arrivait de se mettre encore en colère. Il a dit oui, comme tout le monde. Et alors il y a des gens qui sont choqués, parce que le Dalai Lama, apparemment, il ne doit plus avoir de colère, plus de désir, il ne ressent plus rien. Je suis désolé, on l'a vu ce week-end, il a de l'arthrose au genou, il ne peut bientôt plus marcher, quoi. Eh bien, c'est handicapant, même pour le Dalai Lama, quoi. Il a 81 ans, il a des signes, eh bien, que son corps commence à vieillir, tout Dalai Lama qu'il est, quoi. Mais sans doute que lui ne vit pas ça comme nous, on pourrait le vivre. Nous, on ne parle que de ça. Mon arthrose. Lui doit vivre ça différemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent pas la souffrance de son arthrose. Mais son esprit reste paisible. C'est ça la différence. Bon, je suis d'accord, hein, c'est mieux de vivre sans arthrose. Mais ça ne se commande pas. C'est comme ça. Quand on place l'origine du bonheur sur l'extérieur, on place l'origine de nos souffrances sur l'extérieur aussi. C'est ce qu'on fait un peu de façon ordinaire. Tout le monde se plaint du temps. Tout le monde se plaint de l'autre qui m'a regardé de travers, mon collègue de travail qui n'est pas sympa, ma femme, mon mari, mes gosses, ici et là. C'est toujours sur les autres. L'économie, la politique, etc. Personne ne se dit, mais voilà ce que j'éprouve, mais est-ce que ça ne viendrait pas de moi, quoi ? Parce que si on met la responsabilité sur quelque chose d'extérieur, eh bien, on met la cause du bonheur sur quelque chose d'extérieur aussi. Et c'est un petit peu la démarche qui gère le monde aujourd'hui, quoi. Or, est-ce qu'on est plus heureux? C'est ce que disait le Dalai Lama ce week-end, la première fois qu'il est venu en Occident. Vu le développement économique dans lequel on est, il pensait trouver que des gens heureux, paisibles, souriants, etc. Il n'y a pas plus que les Occidentaux pour faire la gueule, quoi. Rajesh, la première fois qu'il est venu en France, hein, cet ami indien, il disait, mais qu'est-ce que vous avez tous à faire la tête? On est stressé, hyper stressé, et rien ne va, quoi. Il n'y a pas plus râleur que nous. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre esprit, dans ce fonctionnement de l'esprit. Si on veut apaiser tout ça, il faut travailler sur notre esprit. C'est obligé. Alors, le texte dans lequel nous sommes, c'est un texte qui s'appelle, qu'on a traduit en français par « En route vers l'éveil ». C'est-à-dire, c'est un cheminement qui décrit les fondements du bouddhisme et puis l'évolution de ces enseignements. Et là, on est dans les enseignements de ce qu'on appelle le grand véhicule. Alors, peut-être deux mots pour les personnes qui viennent pour la première fois. Il y a deux grands courants dans le bouddhisme. Il y a ce qu'on appelle le petit véhicule, ou j'aime plus trop ce terme-là, mais le bouddhisme, on va dire, des anciens, et qu'on appelle le Theravada. Le Theravada, les pays les plus représentatifs aujourd'hui du Theravada, c'est Sri Lanka, Thaïlande, Cambodge, Birmanie. Quand on va dans ces pays-là, tous les bouddhistes que l'on rencontre, c'est à 100% Theravada. Voilà. Ensuite, vous avez, et on appelle ça le petit véhicule, j'expliquerai pourquoi après, et à côté de ça, vous avez le grand véhicule. Le grand véhicule, c'est dit grand véhicule parce que la motivation du pratiquant est un peu différente de la motivation du pratiquant dans le petit véhicule. Dans le petit véhicule, on prend conscience que je suis en quête du bonheur, je rencontre la souffrance, et il y a une possibilité de se libérer. Comment appliquer la voie de la libération? Voilà. Dans le grand véhicule, le pratiquant prend conscience de la même chose, mais il se dit « mais les autres sont comme moi ». C'est-à-dire ici, il n'y a pas que moi qui ai envie de me libérer de la souffrance. Vous avez aussi envie de vous libérer. Donc dans le grand véhicule, la motivation, elle prend en considération la motivation de tous les êtres. Et donc cette motivation étant plus large, eh bien on appelle ce courant grand véhicule par rapport au petit véhicule. Et dans le grand véhicule, vous avez deux groupes, si vous voulez, deux courants. Un courant qui s'appuie sur les sutras, les enseignements publics que le Bouddha a donnés. Ce courant est représenté par le bouddhisme Chan en Chine. Et quand le bouddhisme Chan est passé au Japon, c'est devenu le bouddhisme Zen. Donc le bouddhisme zen, c'est vraiment un bouddhisme du grand véhicule, mais qui ne s'appuie que sur les sutras. Et puis il y a une deuxième école, un deuxième courant, qui est ce qu'on appelle le Vajrayana. Le Vajrayana, c'est ce qu'on traduit par le bouddhisme du diamant, le véhicule du diamant. C'est le bouddhisme tibétain. Et puis il y a une école aussi, il y a deux écoles, Shingon et puis une autre école au Japon, qui s'appuie aussi sur les mêmes enseignements. Ces enseignements, c'est à la fois les sutras, les enseignements publics que le Bouddha a donnés, mais des enseignements plus intériorisés, plus moins publics, plus secrets, on va dire, qui sont les tantras. Il ne faut pas, je rappelle pour les anciens, il ne faut pas définir le Vajrayana comme étant une école qui ne s'appuie que sur les sutras, que sur les tantras. Ça, c'est faux, faux et archi faux. Les sutras sont enseignés aussi dans le bouddhisme tibétain. Mais il y a cette particularité des tantras. Et les tantras, eh bien, ce sont des méthodes avec visualisation, avec divinité qui représentent différentes qualités de notre nature de Bouddha, etc. C'est toutes ces représentations que vous trouvez là sur ces peintures qu'on appelle tanka, ces peintures tibétaines qui sont accrochées là. Voilà. Mais la motivation chez un pratiquant tibétain doit être la motivation du grand véhicule, du Mahayana. Voilà. Et là, nous sommes dans un texte qui fait partie du grand véhicule, donc avec la motivation de prendre en considération l'éveil, la libération de tous les êtres, et pas seulement une motivation personnelle. Et ce texte dans lequel nous sommes, Et c'est les 37 pratiques de Bodhisattva. Alors, le terme Bodhisattva, c'est un terme qui définit, qui décrit un individu qui a cette motivation du grand véhicule. Un Bodhisattva, c'est un être eh bien, qui va mettre en pratique deux choses, la bodhicitta relative, et qui va donner beaucoup d'importance à la bodhicitta relative, qui est l'amour, la compassion, son comportement, comment il va être avec les autres. Donc, il va modifier sa façon d'être vis-à-vis des autres. Il va voir en quoi son comportement va être cause de souffrance pour les autres et comment modifier cela. Et non seulement comment réduire la souffrance, mais comment apporter plus de paix, plus de bonheur, plus de bien-être pour les autres. Donc, il va mettre en pratique des qualités, la bienveillance, l'amour, la compassion. Et par exemple, le Dalai Lama parle beaucoup, beaucoup de compassion, quoi. Mais c'était intéressant parce que le Dalai Lama a bien précisé de façon très claire ce week-end que cette compassion, ce n'est pas juste une idée. Ce n'est pas juste quelque chose de l'esprit, quoi. Qu'elle doit se concrétiser par des actes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la bodhicitta relative, l'esprit d'éveil relatif. Mais il y a aussi la bodhicitta ultime, c'est-à-dire la vacuité, c'est-à-dire le non-soi des phénomènes et le non-soi de l'individu. Voilà. Ça, c'est une autre forme, c'est un enseignement qu'on voit quand l'esprit commence à être calme. Voilà, on ne commence pas par ça en général. Et dans ces 37 pratiques de Bodhisattva, de Tomé Zangpo, un Tibétain, eh bien, ce maître décrit ce que doit pratiquer un Bodhisattva pour développer ces deux aspects de la bodhicitta ou de l'esprit d'éveil. Il y en a 37 et nous en sommes à la quatrième. Donc on peut se dire que première, deuxième, troisième et quatrième, on est encore dans les bases du chemin du Bodhisattva. Et vous allez voir la quatrième, c'est parti des bases du chemin.
C'est peut-être pas si basique que ça. Ça marche ?
Merci. Alors je vous lis la strophe. De notre famille et de nos amis bien-aimés, avec qui une longue existence a été partagée, nous devrons finalement nous séparer. La richesse et les possessions que nous avons obtenues au prix d'efforts et de querelles seront perdues sans laisser la moindre trace. Du gîte transitoire de notre corps où elle était invitée, la conscience partira. Alors, lâcher prise et se débarrasser des soucis de cette vie est la pratique d'un bodhisattva. Bon, c'est pas très gai, hein ?
Non.
On va reprendre, je vous la relis une fois. De notre famille et de nos amis bien-aimés, avec qui une longue existence a été partagée, nous devrons finalement nous séparer. La richesse et les possessions que nous avons obtenues au prix d'efforts et de querelles seront perdues sans laisser la moindre trace. Du gîte transitoire de notre corps où elle était invitée, la conscience partira. Alors, lâcher prise et se débarrasser des soucis de cette vie est la pratique d'un bodhisattva. Donc, le terme qui résume cette quatrième pratique des bodhisattvas, c'est quoi ?
Renoncement.
Pardon ?
Renoncement.
Non.
C'est comme la mort, en fait.
Mais...
se libérer des attachements.
Oui, mais... l'impermanence.
Ah, oui.
C'est la réflexion sur l'impermanence. Oui. Et ça, c'est une réflexion qu'on retrouve très souvent, pour ne pas dire tout le temps, dans le bouddhisme, quoi. Alors, bien sûr que là, il y a une référence du gîte transitoire de notre corps où elle était invitée, la conscience partira. Ça fait référence à notre mort. Bon, mais c'est clair. Il y a bien un jour où il va falloir quitter ce corps. Vous pensez que quand on arrive à 90 ans, on est heureux de quitter son corps ? Moi, j'ai vu beaucoup de personnes âgées dont le corps était plutôt en piteux état, mais qui étaient encore agrippées à leurs vieux os. Hein.
Puis quitter sa famille.
Oui, mais simplement déjà, voilà, quitter son corps, quoi. C'est décrit comme une des souffrances hein, de la mort. Quitter son corps. Et il ne faut pas imaginer, ça je n'y crois pas une seconde, qu'avec l'âge, la sagesse arrive. Hein. Ça, S'il n'y a pas eu un entraînement de l'esprit, vous savez, c'est pas dit. Hein. C'est pas automatique. Hein. Et pourtant, il faudra bien le quitter. Et puis peut-être qu'il faudra le quitter avant 90 ans. Hein. On peut peut-être le quitter dès demain, hein, ce corps. Est-ce qu'on n'a pas de l'attachement pour le corps ? Mais attendez, s'il n'y avait pas d'attachement pour le corps, il y a tout un pan économique de notre société qui se casserait la figure. Les cosmétiques. Quoi, hein. Ça veut bien dire que si c'est en bonne... si ça se tient bien, c'est ce pan de l'économie, ça veut dire que on consomme. On consomme bien, même. Et pourquoi on consomme ? Ne me dites pas, c'est juste pour aller mieux, hein, pour l'entretenir. Bien sûr que c'est bien d'avoir un corps... qui fonctionne bien et d'entretenir son corps, c'est très bien. Et on a besoin d'un corps en bonne santé pour pouvoir pratiquer le dharma. Mais il n'y a peut-être pas besoin d'autant de teinture hein, pour avoir un corps en bonne santé. Hein. Etc, etc. Comment ?
Le sport.
Le sport,
oui. Non, le sport.
Ah, le sport, oui. Mais ça entretient le corps. Voilà. Bon, mais personne ne dit qu'il ne faut pas entretenir le corps. Hein, voilà. Mais de toute façon, un jour, il faudra quitter ce corps. Et ça, c'est quand même une réflexion à avoir. Et il ne faut pas se dire, oh là là, il parle de la mort, c'est pas gai, et tout ça. C'est une réalité. Et l'attachement pour le corps est très fort. Très, très fort. Et je ne pense pas qu'un miracle se produira le jour où on va savoir qu'il va falloir le quitter. À se dire, bah oui, tout est impermanent, bon, bah c'est maintenant, j'y vais, quoi. Je ne crois pas trop à ce genre de miracle. C'est-à-dire que si on ne s'est pas familiarisé avec l'idée de notre mort, eh bien, c'est une expérience qui risque d'être difficile, quoi. C'est-à-dire que là encore, il y a la notion de familiarisation, d'entraînement de l'esprit à cette idée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut penser qu'à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir triste. Mais il faut s'habituer à l'idée que un jour, on va mourir, quoi. Parce que c'est la seule certitude que l'on ait. Hein. Et alors, pareil, de notre famille et de nos amis bien-aimés, avec qui une longue existence a été partagée, nous devrons finalement nous séparer. Ben oui. Mais est-ce que nous ne sommes pas attachés à nos amis ? Est-ce que nous ne sommes pas attachés à notre famille ? Alors, est-ce que vous êtes convaincu que c'est l'attachement qui fait souffrir ? Ben ça, si vous ne l'êtes pas, il faut étudier. Pas étudier des bouquins, mais observer. Quand vous êtes attaché, mais ne serait-ce qu'à un objet. Alors, il y a des personnes qui me disent « Oh non, moi je ne suis pas attaché, je ne suis pas attaché ». Allez faire semblant de rayer leur voiture. Vous allez voir s'ils ne sont pas attachés à leur voiture. Prenez l'exemple des bibelots, quoi. Combien on peut être attaché à nos bibelots ? C'est insignifiant comme chose. Et pourtant, on peut être attaché. On est attaché parce qu'il y a une valeur sentimentale, etc. Comment finissent les bibelots ? Vous avez vu les vide-greniers ? C'est tout plein de poussière, on vend ça à un demi-euro, alors que ça représentait peut-être quelque chose de valeur hein, pour la personne qui possédait ce bibelot, etc. Donc, là encore, c'est l'attachement qui est cause de souffrance. Quand on travaille sur l'attachement, il ne s'agit pas de commencer de travailler sur l'attachement que vous pouvez éprouver pour vos enfants, quoi. Parce que je pense que là, c'est vraiment un attachement extrêmement puissant et que c'est difficile, quoi. Mais on peut s'entraîner à travailler sur des formes d'attachement que l'on éprouve dans notre vie quotidienne pour des petites choses, pour des objets, pour des... Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument s'en séparer pour travailler sur l'attachement. Mais ça veut dire être conscient de cet attachement. Attachement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand on est attaché, on n'est pas libre. Or, le Dharma propose la libération de la souffrance. Mais il faut se libérer à ce moment-là des causes de la souffrance. Et l'attachement, eh bien, c'est une des causes majeures dans le monde humain. Le monde humain est régi par l'attachement. C'est tellement puissant dans le monde humain que on ne voit pas l'attachement comme un problème. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, mais si je ne suis pas attaché, est-ce que je peux encore aimer ? C'est-à-dire que attachement et amour, c'est complètement confondu. Et pourtant, c'est l'attachement qui fait souffrir. Et si vous n'êtes pas convaincu de ça, eh bien, détachez-vous. Et voyez comment réagit votre esprit. Le petit bibelot de la grand-mère que vous gardez sur votre cheminée, etc., allez le donner demain matin au premier passant dans la rue. Et voyez comment ?
Il va être surpris.
Mais en tout cas... Mais en tout cas, observez votre esprit s'il est prêt à le faire. Et s'il éprouve une grande liberté à le faire ou s'il éprouve une frustration. Il n'y a pas de jugement à avoir. Mais s'il éprouve une frustration, ça veut dire qu'il y a attachement. On peut être attaché à la pratique aussi. On peut être attaché à sa cloche, à son dorje, à ses textes, à son mala, le mala qui a été béni il y a quelques années par tel Rinpoche. Combien de pratiquants sont attachés à leur mala ? Le mala, c'est le chapelet bouddhiste. Combien de pratiquants sont attachés à leur mala ? À la kata qu'on a... La kata, c'est l'écharpe blanche. À la kata qu'on a offert au Dalai Lama, puis il nous l'a remise autour du cou. Mais vous dormez presque avec, hein ? Vous ne craignez pas de la donner à quelqu'un. Et ça, c'est intéressant de voir l'attachement, là. Parce que ça, on peut se libérer de cet attachement assez facilement, avec humour, avec un regard un peu extérieur. Mais si on ne s'entraîne pas à ces formes petites d'attachement, eh bien, l'attachement pour... nos enfants, pour notre famille, etc., on n'y arrivera jamais, quoi. C'est-à-dire que là encore, c'est un entraînement de l'esprit. Il faut commencer par des choses toutes minimes. Il faut habituer notre esprit à se détacher. Et à ce moment-là, le détachement deviendra quelque chose de plus naturel, petit à petit. Mais s'il n'y a pas cet entraînement, l'attachement restera toujours aussi fort. Vous avez des grands yogis, des yogis dans des grottes, ils sont attachés à leur cloche. Ils n'ont plus que ça. Mais ils sont attachés à ça. Et ben, tant qu'il y a un attachement, il y a souffrance. Parce que si on vient dérober leur cloche, ben, leur esprit est en ébullition. Donc là, la richesse et les possessions que nous avons obtenues au prix d'efforts et de querelles, quelquefois, seront perdus sans laisser la moindre trace. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans l'indigence et puis vivre dans la pauvreté et ne plus rien avoir. Quand on parle de détachement, on ne veut pas dire qu'il ne faut plus posséder la voiture que l'on aime. Mais il faut être libre de pouvoir vivre sans cette voiture. Voilà. À partir du moment où vous êtes libre de ça, roulez tranquillement dans la voiture que vous aimez. Mais beaucoup de personnes imaginent que se détacher, eh bien, c'est ne plus être en contact avec cet objet, par exemple. Ça, c'est faux. On peut apprécier les choses. Je pense que le Dalai Lama, où, par exemple, l'hôtel, on était obligé de lui choisir un hôtel hyper protégé, dans une rue hyper calme. Alors, ceux qui connaissent, il était à Ostwald, l'hôtel de... Comment ça s'appelle ? Château de Lille. Quand vous y allez, c'est top. Mais il n'en a rien à faire. Il est totalement libre de ça. Une année qu'il était venu à Paris, le gouvernement l'avait, pour des raisons de sécurité, l'avait logé au Crillon. Et dans la presse, il y avait eu des critiques. Mais le Dalai Lama avait dit, mais moi, c'est un lit, quoi. Je dors dans un lit au Crillon ou un lit dans un monastère. Et pour lui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il n'en a rien à secouer des lustres, etc. Quoi. C'est-à-dire qu'il peut apprécier le confort, il peut apprécier d'avoir ci, d'avoir ça, etc. Mais son esprit n'est pas attaché. Voilà. Et c'est ça le non-attachement. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la pauvreté. On peut continuer de vivre comme on vit dans les conditions actuelles, mais ne pas être attaché, ne pas être dépendant de ces conditions pour être heureux. Voilà. Alors la conclusion, c'est alors lâcher prise et se débarrasser des soucis de cette vie et la pratique d'un bodhisattva. Lâcher prise, ça veut bien dire lâcher la prise, lâcher la saisie, lâcher ce à quoi on s'agrippe, on se cramponne, quoi. Lâcher prise, ça aussi, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, hein, mais on n'en comprend pas trop le sens, quoi. Il y a des personnes qui pensent que lâcher prise, eh bien, c'est être indifférent. C'est devenir indifférent. Ou alors, ça consiste à ne plus être... concerné par les situations. Ah, je suis dans le lâcher-prise. C'est une espèce de, comme je dis, de légume anesthésié, là, comme ça. Bon. Je vous ai déjà raconté cette histoire dans le bus. Hein. J'étais en Inde, j'étais avec la Madame Gall, M. Chuki, à un séminaire. Je ne sais pas si tu y étais, Brigitte, mais on était allé à Sopema. Et le chauffeur s'était trompé de route. Alors, il y a déjà qu'il y avait 12 heures de bus, dans un bus où on était comme ça, sans arrêt. Puis en Inde, des routes de montagne et tout ça, quoi. Et il s'est trompé de route. Alors, il y avait 3-4 heures de route à rajouter. Et on avait tous marre, quoi. On était tous fatigués, etc. Et alors, il y avait une personne tout de blanc vêtue, n'est-ce pas, et qui était toujours comme ça. Alors, pendant 14 heures dans le bus, elle était là. J'en ai marre, mais je ne montre rien, tout va bien, je lâche prise, quoi. C'est un zombie, c'est pas un pratiquant du dharma, c'est un zombie, quoi. Alors elle me dit, à un moment donné, elle me dit, « Alors, la Matsultrim, vous êtes dans le Mahamudra ?» Alors le Mahamudra, c'est la nature de l'esprit, l'éveil, quoi. « Alors, la Matsultrim, vous êtes dans le Mahamudra ?» Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit, « Non, je suis dans le bus et j'en ai marre, quoi. » C'était logique d'en avoir marre. Au bout de 14 heures de bus, vous en avez marre, c'est logique. Par contre, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en colère, d'exprimer votre ras-le-bol, etc. Et c'est ça, là, c'est plutôt ça, le lâcher-prise. Voilà. Mais il n'y a pas à avoir une attitude artificielle. Je n'ai jamais vu le Dalai Lama ou Rinpoche ou Rinpoche ou Karmapa avoir une attitude artificielle. « Oui, je suis grand lama. » Non, pas du tout. Donc, lâcher-prise. Et se débarrasser des soucis de cette vie. Mais les soucis de cette vie, s'en débarrasser, ça ne veut pas dire les rejeter. Ça veut dire que si je lâche prise, je peux les vivre, je peux être confronté aux situations de ma vie quotidienne sans que mon esprit en soit perturbé, affecté. Tous les maîtres, par exemple, mais vivent comme nous, quoi. Je parlais du Dalai Lama avec son arthrose au genou, mais il rencontre toutes les situations que nous rencontrons. La maladie, la vieillesse, la mort, la perte de proches, des personnes pas sympas avec elles, des situations inconfortables, fait trop chaud, fait trop froid, fait ci, fait ça, bon, etc. Il rencontre tous les mêmes situations que nous. Ils les vivent, ils les ressentent comme nous. Ils ne sont pas anesthésiés, ils les ressentent. Simplement, leur esprit, à ce moment-là, lâche prise. Donc, toutes ces difficultés de la vie, s'ils doivent y répondre, ils y répondent, mais avec efficacité, et l'esprit toujours étant détendu, calme, tranquille. Et là, il y a vraiment une libération qui s'élève, qui est expérimentée à ce moment-là dans l'esprit. Alors maintenant, cette notion de l'impermanence, qui est quand même le point central de cette strophe 4. On en parle beaucoup dans le Dharma. Hein, et les anciens, vous avez étudié les quatre idées fondamentales avec l'impermanence, bon, etc. Mais essayez de travailler dans le mois qui vient sur cette notion, de vous familiariser avec cette notion de l'impermanence. Mais j'allais dire, avec des moyens qui sont les vôtres. On peut évidemment lire des textes sur l'impermanence. Tous les grands maîtres ont écrit des textes sur l'impermanence. Des textes du 10e siècle, 12e siècle, etc. Vous voulez que je vous confie quelque chose ? Ça ne m'a jamais inspiré. La notion d'impermanence, pour moi, je n'ai jamais été inspiré par tous ces écrits sur l'impermanence. Donc à un moment donné, je me suis dit, je suis peut-être bizarre, normalement il faut vraiment méditer sur l'impermanence, etc. Pourquoi ça ne fonctionne pas sur moi ? Je crois vraiment qu'il faut que chacun trouve des moyens qui lui sont propres, qui le touchent et qui lui font prendre conscience de l'impermanence. Ces moyens, évidemment qu'on peut s'inspirer de textes et des instructions des maîtres. Mais si ça ne fait pas tilt dans votre esprit, cherchez ailleurs. Méditez vous-même sur l'impermanence. Mais que cette notion-là, elle prenne une dimension réelle pour vous. Sinon, ça reste une notion intellectuelle. Et on est toujours surpris, toujours étonné quand l'impermanence intervient. La seule chose qui soit permanente dans le monde, c'est l'impermanence. Et quand on parle de l'impermanence, ce n'est pas forcément une réflexion uniquement sur la mort. Mais c'est une réflexion aussi sur le fait que tout change d'instant en instant. Il y a une instabilité dans notre monde. Il n'y a pas une chose qui soit stable. On a l'impression d'être toujours la même personne que nous étions il y a 20 ans. Mais ce n'est qu'une impression, ce n'est pas la réalité. Enfin, regardez les photos, quoi. Vous voyez quand même du changement, non ? Bon. Eh bien, ça veut dire que d'instant en instant, ça change, ça bouge. Et c'est ça la réalité. Mais on n'y croit pas. Ou alors, si on le sait, on ne le sait qu'intellectuellement, mais on n'a pas intégré cette notion d'impermanence. Et ce n'est pas pessimiste que de réfléchir sur l'impermanence. C'est la quatrième pratique. On est encore dans les bases du chemin du Bodhisattva. Cette notion d'impermanence, elle fait partie des bases. Mais elle va plus loin que ça. C'est une des deux clés pour arriver à comprendre ce qu'on appelle la vacuité. Si tout est impermanent, ça veut dire qu'il n'y a rien de stable, il n'y a rien de permanent, il n'y a rien de solide, de fixe. Et ça, c'est une des portes qui permet la compréhension, qui permet d'aborder cette notion de vide d'existence propre. La deuxième, c'est l'impermanence de toute chose, l'interdépendance de toute chose. Tout existe par interdépendance. Mais de vraiment s'habituer, d'intégrer, de se familiariser avec cette notion d'impermanence, non seulement l'attachement diminuera, donc il y aura moins de souffrance, mais, et moins de souffrance et plus de liberté, plus de libération, d'ouverture, de détente dans l'esprit, mais aussi on avancera sur la compréhension de ce qu'on verra plus tard sur ce qu'on appelle la vacuité. On ne peut pas aborder la notion de vacuité sans avoir intégré ces notions d'impermanence et d'interdépendance. Donc profitez de ce mois que vous avez devant vous avant le prochain enseignement pour vous familiariser jour après jour à cette notion d'impermanence. Quand vous apprenez qu'une situation s'est transformée, vous pouvez vous dire c'est dommage. Vous pouvez le dire, le constater. Mais dites-vous, rajoutez toujours mais c'est normal. C'est normal. Ça s'est transformé, c'est normal. Alors, c'est peut-être pas agréable. Mais le Bouddha n'a pas... Vous avez un maître thaïlandais, Ajahn Chah, qui disait toujours « Méditer nous conduit à voir les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. » C'est voir les choses telles qu'elles sont, c'est voir la réalité des choses. Ça ne nous plaît pas que tout change. Mais la vérité, c'est ça, quoi. Trouver quelque chose qui ne se modifie pas, qui ne change pas. Alors, on peut vivre, effectivement, en pensant que, non, tout est fixe, etc. Mais on est hors réalité à ce moment-là. La réalité, c'est que tout change d'instant en instant. Tout se transforme. Alors il faut se familiariser avec cette idée. Mais chacun doit trouver un moyen pour intégrer cette notion et ce moyen qui a du sens pour lui, quoi. Que la pratique soit vivante pour chacun. On ne fait pas du copier-coller, quoi. Il y a les instructions, il y a des enseignements, on peut s'appuyer sur des textes, etc. Oui, ça doit nous inspirer, ça doit nous donner des moyens de réflexion, etc. Mais il faut absolument, après, que tout cela, ça devienne votre propre cuisine, quoi. Je n'ai pas dit ce qu'a dit Rinpoche sur le sujet, hein. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il dit alors ? Oui, il parle aussi que si nous avons moins d'attachement, eh bien nous serons beaucoup plus ouverts vis-à-vis des autres et que ça favorisera en fait la relation avec autrui. Hein ? Voilà. Si nous comprenons vraiment l'impermanence, nous serons capables de nous relier avec plus de sagesse aux autres. Si nous nous accrochons fermement à quelque chose, nous aurons des problèmes à la mesure de notre attachement et nous redouterons sa perte. Le véritable problème, c'est l'importance que nous accordons à la fois à nous-mêmes et aux choses que nous voulons, dit Rinpoche. Une fois que nous aurons compris l'impermanence clairement, notre saisie et notre manière samsarique de nous voir nous-mêmes et tout le reste se dissiperont quelque peu. Nous ne, étant moins égoïstes et susceptibles, nous ne nous sentirons plus aussi hypersensibles et vulnérables aux blessures. Relâcher notre saisie, particulièrement vis-à-vis de nous-mêmes, est une des manières fondamentales d'agir en Bodhisattva. Bon, après, on essaiera peut-être de développer plus d'une strophe par mois, parce qu'il y en a 37. On n'a pas fini le bouquin. Hein, voilà. Mais bon, on n'est pas là pour apprendre. Hein. On n'est pas là pour faire de l'étude et juste emmagasiner un savoir. On est là pour intégrer l'enseignement. Donc le vivre, s'employer à le mettre en pratique à notre quotidien et voir ce que ça peut occasionner comme transformation dans notre esprit. Si pour réaliser l'état de Bouddha ou l'éveil, ça ne passait que par l'intellect, il y aurait d'immenses universités bouddhistes et il faudrait faire tout le cursus. Vous avez des gens au Tibet qui ne savaient pratiquement ni lire ni écrire et qui réalisaient l'état de Bouddha. Donc on a besoin des enseignements, on a besoin de l'étude. Mais ce n'est pas le point fondamental. Le point fondamental, c'est la mise en pratique, l'entraînement. Est-ce que vous avez des questions maintenant ou des observations ? Marie-Yvonne.
Est-ce que ça a à voir avec l'impermanence, le fait d'avoir peur de l'inconnu, finalement, et puis la difficulté d'adaptation ? Est-ce que ça a à voir avec justement vivre l'impermanence ? Prendre conscience que finalement on veut que ce soit stable parce qu'on n'a pas envie, on a des difficultés à s'adapter et on a peur.
Mais c'est rassurant de considérer que les choses sont stables. C'est très rassurant. Mais les choses ne sont pas stables. Donc qu'on le veuille ou pas, il y aura du changement, quoi. Ouais. Alors, cette réflexion aussi l'impermanence, sur le lâcher prise, tout ce que nous avons fait dans le passé, même s'il y a encore des pensées relatives à ce que nous avons fait, ça sera toujours là. Mais ça n'existe plus, le passé. Et le futur n'existe pas encore. Or, combien de nos souffrances sont liées à la saisie par rapport à des pensées relatives au passé ou relatives au futur ? Enfin, observez comment on fonctionne aujourd'hui par rapport au devenir de notre société, par exemple. Combien d'angoisses, d'appréhensions, de peurs nous pouvons avoir. Bien sûr qu'il faut s'en préoccuper, bien sûr qu'il faut agir, qu'il faut projeter des choses. mais ne pas solidifier les choses, ne pas saisir les choses. Donc cette réflexion nous ramène à quoi ? À l'instant présent. Et l'instant présent, c'est le seul instant de la libération. J'en ai déjà parlé, mais c'est une erreur monumentale que d'imaginer que l'éveil va se produire dans X années ou dans X vies. Si on considère l'éveil dans le futur, ça ne pourra jamais se produire dans le futur. Le futur n'existe pas. Et même s'il se produit dans 50 ans, quand il se produira, ça sera dans l'instant présent. La seule possibilité de réaliser l'éveil, c'est ici et maintenant. C'est la seule. Expérimentez ça. Ne saisissez pas ce que vous vivez dans l'instant présent. Immédiatement, votre esprit s'ouvre complètement. Il n'y a plus de peur, là. Quand le Dalai Lama parlait de la peur, il n'y a plus de peur dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent, la grosse peur qui disparaît, c'est la peur de la mort, justement. Et c'est ce que disait Kalu Rinpoche quand un jour je l'ai entendu dire « Mais pourquoi avez-vous peur de la mort ? Ça ne dure qu'un instant. » Mais c'est vrai, c'est vrai. Alors bien sûr qu'on peut avoir des projets, qu'on peut imaginer ce qui va se passer, etc. Rinpoche, quand il voyage, il faut bien qu'il prenne à l'avance son billet d'avion, fasse ses visas, etc. Bien sûr qu'on va vivre avec des projets, mais efforcez-vous. Et bien sûr qu'on vit avec nos souvenirs aussi. Mais efforcez-vous d'être dans l'instant présent. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que combien c'est important d'observer le fonctionnement de l'esprit. Dans l'instant présent, comment fonctionne mon esprit ? Comment réagit mon esprit face à cette situation-là ? Comment ?
C'est quand même pas facile.
Mais le Bouddha n'a jamais dit que c'était facile. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Si c'était facile, mais il y a longtemps qu'on serait tous Bouddha. Mais oui, parce que nous sommes formatés. On fonctionne comme ça, comme disent les textes, depuis des temps sans commencement. Ça fait un moment, hein ? Depuis des temps sans commencement. Alors, évidemment que... Il y a un entraînement samsarique, un entraînement qui crée de la souffrance, et bien ça, on est bien habitué à fonctionner comme ça. Donc petit à petit, c'est petit à petit qu'il faut pratiquer. D'autres questions ?
Oui, j'ai une question par rapport à l'attachement. Comment on peut être ou prendre conscience qu'on n'est pas plus attaché à un objet ou à quelque chose ? On s'en sépare pas. Il y a des choses, on sait qu'on est attaché, il n'y a pas de doute.
Oui.
Et puis il y a des choses où, du bon an, je ne suis pas attaché. Sauf que si on le prend, on va dire bah, si, en fait, j'ai été attaché.
Si cet objet n'est plus là, est-ce qu'il y a frustration ?
Bah, là, à ce moment-là, on le sait, puisqu'il n'est plus là. On va savoir s'il y a frustration ou pas. Mais vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de s'en débarrasser.
Ah bah, si vous n'êtes pas sûr d'être détaché, eh bah, débarrassez-vous-en et voyez si vous pouvez vivre sans. Et à ce moment-là, si votre esprit est totalement en paix, bah, laissez-le sur la cheminée. C'est très bien, ça décore. C'est très bien. Mais si vous n'êtes pas sûr que vous n'êtes plus attaché, effectivement, dites à quelqu'un, bah, écoute... Prends cet objet, je te le donne, quoi. Et voyez à ce moment-là comment réagit l'esprit. Et je crois beaucoup à ce genre de pratique. De petites fourmis, j'allais dire. Vraiment, un objet. Et oui. Écoutez les vieux bouquins qu'on a lus, et qu'on ne relira pas. On en a des rayons entiers de ça. Les fringues qu'on ne remettra pas. Parce que ça ne se fait plus, c'est plus à la mode, etc. Mais plein de choses comme ça, plein de choses. Il y a un sketch de je ne sais plus quel humoriste, Gad Elmaleh, je crois, où il y a toujours, vous savez, dans l'entrée, dans le couloir, une espèce de soucoupe, où il y a tout la pile qui est usée, le crayon qui n'écrit plus depuis un an, mais qu'on garde quand même. Hein, le bouton du costume.
On a fait le costume.
Mais le costume est On n'entre surtout plus dedans, oui. Et donc, on n'a plus besoin du bouton. Mais on ne jette rien. On ne jette rien. Mais ça, c'est des formes d'attachement. Il ne faut pas voir l'attachement tout de suite, oui, à mon mari, ma femme, etc. Non, non, c'est pas ça. Là. Donc, hein. Mais on est extrêmement attaché à des petites choses. Et c'est très bien de commencer là-dessus. Parce que ça, on peut s'en détacher. On peut être conscient sans que ça crée une frustration énorme dans notre esprit, quoi. Voilà.
Mais bon, les gens ont quand même de moins en moins d'objets, je trouve, chez eux. Ça a tendance à ce truc, mais alors à se vider. Mais ce qui m'étonne, c'est que maintenant, les gens, ils se font des tatouages, pas sur eux. Alors, ça se vide dans leurs appartements, mais ils se font
alors,
des tatouages sur eux.
Alors moi, j'aurais tendance à vous répondre, peu importe ce qui se passe chez les autres, voyez votre esprit.
Oui, mais voilà. Ça c'est général.
Oui, mais je ne sais pas ça, je ne sais pas s'il y a moins d'attachement parce qu'il y a moins d'objets chez eux, ou je ne sais pas, l'attachement est quand même très très fort, quoi. Voilà. Il peut y avoir d'autres formes d'attachement. Vous savez, le pire des attachements, c'est l'attachement à la pratique, hein. L'attachement aux expériences qu'on peut avoir en méditation. Ça, c'est un des plus gros obstacles de la pratique. Et le Bouddha disait, une chaîne, qu'elle soit en fer ou en or, ça reste une chaîne. Hein.
Je ne comprends pas bien l'attachement à la méditation.
Dans la méditation, par exemple, vous pouvez avoir une expérience de calme mental et c'est en général accompagné de bien-être. On est dans un état de bien-être, c'est vaste, c'est... Voilà. Et vous pouvez vous dire, oh, c'est génial. Donc, oui, c'est génial, d'accord. Mais si vous vous attachez à ça, par exemple, vous allez attendre qu'à la prochaine session de méditation, cet état se réinstalle dans votre esprit. Et là, il ne pourra pas se réinstaller. D'où frustration, d'où... Oui, mais alors je ne médite pas, et pourquoi maintenant ça ne se réinstalle pas, bon, etc. Et ça peut devenir, cet attachement peut devenir à ce moment-là un obstacle, mais un obstacle assez difficile à dépasser parce que l'attachement est puissant, quoi. Et plus subtil que l'attachement à un bibelot, quoi. D'autres questions ? Oui.
Mais pas du tout relative à l'enseignement. Relative aux petits sachets qu'on a reçus dimanche avant l'initiation.
Oui.
Il y a des petits fils de couleur. À quoi servent-ils ?
Je ne sais pas trop.
Ben, c'est la même chose que les
crocs. C'est des cordons.
Quelqu'un m'a dit que c'était... C'est pas toi, Daniel,
c'est des cordons.
Non, mais c'est pas un cordon. C'est des tout petits fils. On m'a dit que c'était dans le cas d'initiation longue, quand elle n'était pas finie le jour même. Je ne sais pas si c'est vrai, hein. On mettait ça autour du poignet, autour de la cheville.
Moi, j'ai rempli des sachets. Il fallait mettre ce petit fil entouré avec un autre fil, avec le rouge. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, dans la préparation de l'initiation, le Dalai Lama a pris un fil qui ressemblait à ça, qui était rattaché à un bumpa, à un vase qui était sur le mandala. Et il a pris ce fil-là et il l'a mis sur son cœur. Et je pense que c'est en relation avec ça. Mais je ne peux pas le certifier.
Parce que moi, je n'ai pas entendu d'explication.
Le riz a été...
Du riz safrané.
Oui, c'est du riz safrané.
Il
l'a
gardé après si on veut sur son antenne.
Oui, mais non, je suis... Enfin. Oui, voilà. Mais c'est des... Ça, c'était le...
Oui, le
ça, c'est le cordon de l'initiation.
Oui, c'est le
et puis, ça, c'était le...
Voilà. Hein, le pétale de fleurs, pour ça, pour la... Voir où il tombait au niveau du mandala, c'est
oui,
ce que j'ai entendu.
Voilà. Donc vous avez vu pour ça, hein, où le pétale de fleur est tombé. C'est Rinpoche, je ne sais plus quel son nom, je ne connaissais pas ce Rinpoche. On lui a présenté les Dhyani Bouddha, le mandala des Dhyani Bouddha, et il a jeté son pétale de fleur et il est tombé au centre. C'est pour ça qu'ensuite il parlait de Vairochana. Oui. Non, Akshobhya.
Akshobhya.
Voilà.
D'accord.
Le cordon rouge, vous voulez dire, oui, je n'ai pas compris trop à quoi il fait.
Le grand, le gros, le large, le ruban rouge.
Non, celui d'initiation, celui-là, j'ai compris à quoi il servait.
Ouais.
Par contre, le cordon rouge, oui, après.
C'est toujours le cordon, vous savez, à la fin d'une initiation, quand on passe devant le maître qui donne l'initiation, il remet un cordon de protection, comme lors du refuge. Et c'est ça. C'est le cordon de protection de la, lié à cette initiation qu'on a reçue, quoi. Comme on ne pouvait pas 10 000 personnes défiler devant le Dalai Lama, on avait préparé... Alors, il a béni tout ça, hein. Il a béni. Et puis ensuite, on a tout mis dans 10 000 sachets, quoi.
Et si on a pris les 5 vœux, ça veut dire qu'on prend refuge ou c'est quelque chose de différent de
la... Non, c'est quelque chose de différent. C'est normalement, pour prendre des vœux de fidèles laïcs, il faut avoir pris refuge. Mais bon, voilà, on peut très bien s'engager aussi à vivre selon une éthique, même si on n'a pas pris formellement refuge, quoi.
D'accord.
Mais ce ne sont pas les vœux de refuge, c'est différent,
oui,
ça.
Oui. Ouais. D'accord, non, mais je voulais juste savoir s'il y avait... Ça veut dire quoi, prendre refuge ?
Prendre refuge, alors ça veut dire... alors voilà, le terme, par exemple, pourquoi on parle de refuge ? Refuge, qu'est-ce que c'est qu'un refuge, quoi ? Si se met à pleuvoir, on est en rando, il se met à pleuvoir, il y a un refuge, on se réfugie, quoi. Pourquoi ? Parce qu'on se protège de quelque chose. Donc prendre refuge, ça veut dire je constate qu'il n'y a pas de libération possible de la souffrance en dehors de mon esprit.
Donc c'est refuge dans son esprit.
Donc le refuge, l'idée fondamentale, le sens fondamental du refuge dans le Bouddha, c'est dans la nature de Bouddha, dans mon esprit. Et bien sûr que je prends refuge aussi dans le Bouddha, Bouddha historique, qui a montré le chemin. Mais fondamentalement, c'est en moi que je prends refuge. Ça, dès le départ, il faut bien le savoir, quoi. Alors après, pour actualiser cette nature de Bouddha, cette nature de sagesse que le bouddhisme conçoit en chaque individu, donc ça, ça détermine aussi toute l'attitude qu'on a vis-à-vis de soi-même, hein. Se dire « je suis nul, bon à rien, moche, etc. », c'est pas une attitude bouddhiste. Hein. Les Occidentaux, on est bon là-dedans. Hein. La culpabilité, le dénigrement de soi-même, alors là, on est bon. Et ça, on ne peut pas pratiquer le dharma de cette façon-là. Hein. Mais pour actualiser cette nature de sagesse qu'on conçoit chez tout individu, il faut un chemin, il faut une méthode. Donc ça, c'est le deuxième refuge, c'est le dharma. Le dharma, c'est l'enseignement que le Bouddha a donné. Mais comme je précisais au début, le dharma, on doit le vivre. Ce n'est pas juste une théorie. Et on prend refuge aussi dans la sangha, c'est-à-dire dans la communauté, les compagnons, les compagnes qui suivent le même chemin, et surtout dans ceux qui sont un petit peu plus avancés que nous et qui peuvent nous montrer le chemin. Donc, mais... Tout dépend, les deux derniers, le refuge dans la sangha et le refuge dans le dharma, ça dépend en fait du refuge dans le Bouddha. Est-ce que j'ai vraiment envie de me libérer, de libérer les êtres, quoi ? Voilà, c'est ça. En d'autres termes, est-ce que j'en ai marre de souffrir ? Un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui a, je dis souvent sous forme de boutade, mais qui en a marre d'en avoir marre, quoi. Un jour, il faut se dire, mais vivre comme ça, éprouver ça, expérimenter ça, mais j'en ai assez, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de mettre un terme à ce que je vis intérieurement, quoi. Enfin, c'est pour ça que le Bouddha prenait l'exemple du malade. Je suis malade, est-ce qu'il n'y a pas un traitement qui existe pour me libérer de cette maladie, quoi. Voilà.
Moi, où j'ai un petit souci avec la prise de refuge, c'est depuis le temps que je viens là, j'avais l'impression que la prise de refuge, c'est au-delà de ça. Disons, au-delà de ça, c'est pas vraiment ce que je veux dire, parce que tel que là, vous venez de la présenter, on peut prendre refuge en nous-mêmes, disons, en nous-mêmes, dans le dharma, dans notre nature de Bouddha, dans la sangha ou sangha, sans forcément avoir besoin de le...
Formaliser.
De valider, de formaliser, de... Or, j'avais cru comprendre qu'il fallait quand même passer par une formalisation.
Alors, dans des écoles bouddhistes, je ne crois pas que dans le zen, on prenne refuge formellement. Je crois qu'à partir du moment, c'est une conviction intérieure, et ça suffit. Le Vajrayana, tout est ritualisé dans le Vajrayana. Tout est ritualisé. C'est le mode de fonctionnement de cette école. Donc, le refuge, on va aussi le formaliser. On va le demander, d'abord. Et ça, c'est important de le demander, parce que le prosélytisme est interdit dans le bouddhisme. Et personne Je ne sais même pas si vous avez pris refuge ou pas. Vous avez pris refuge ou pas, vous ?
Moi-même ?
Oui.
En moi-même, si je...
Oui, non, mais formellement...
Mais formellement, non.
Et pourtant, ça fait des années qu'on se connaît.
Oui, mais par contre, j'ai mis le pied à terre et j'ai pris... Disons, je me suis engagée à ça et à le faire.
D'accord.
Devant le... je l'ai déjà pris en moi-même. D'accord. Je m'efforce chaque jour de le faire. Mais je n'ai pas... Non, parce que j'étais bloquée jusqu'à... On va dire jusqu'à cet été, j'étais bloquée dans le fait qu'entre moi et le Vajrayana, il y a quand même toutes ces représentations comme qui me posaient problème.
Oui.
C'est pour ça que pour moi, c'était important de retourner encore une fois voir
pour
voir si c'était quelque chose qui me bloquait vraiment.
Oui.
Mais a priori, j'avais l'intention de passer, passer malgré mes divergences, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est... À un moment donné, il faut que je puisse reconnaître que je trouve quelque chose ici, même si je...
Oui, oui. Mais ce que je voulais dire, c'est par exemple que, bon, on se connaît depuis des années, je ne vous ai jamais dit, vous savez, maintenant, il serait temps de prendre refuge, quoi. Jamais je vous ai dit ça. Parce que dans le bouddhisme, prendre refuge, il faut le demander. C'est une démarche qui doit venir de nous-mêmes, qui est une démarche personnelle. Prendre refuge, d'ailleurs, c'est pas correct le terme. Quand vous traduisez vraiment le terme tibétain, c'est entrer en refuge. Ça veut dire qu'il y a un pas à faire. Et c'est à nous de le faire. Personne ne peut vous convertir. Personne ne peut venir vous dire, vous obliger à prendre refuge. Personne. C'est une démarche qui vous est personnelle. Et ça, c'est dans le dharma, c'est extrêmement clair, ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à devenir bouddhiste, quoi. Alors, simplement, dans le bouddhisme tibétain, effectivement, tout est ritualisé. Alors, on va formaliser ça, montrer que, oui, c'est moi qui le demande. Alors, je le demande, et puis, je récite trois fois la prière de refuge pour formaliser aussi. Alors, je le formalise par le corps, mais je le formalise aussi par la parole, et je le formalise aussi par l'esprit, c'est-à-dire, je visualise les éléments de refuge, le Bouddha, le Dharma, le Sangha, et en quoi je m'engage, quoi. Et dans les autres écoles, je ne sais pas, mais sûrement, mais dans le Vajrayana, c'est vraiment un engagement, quoi. Donc c'est pour ça que ça doit être vraiment très personnel, et on peut le faire publiquement, quand la personne demande à prendre refuge, on peut le faire ici, et la petite cérémonie de refuge peut se faire là, parce que ça a du sens aussi que la Sangha soit présente, puisqu'on prend refuge aussi dans la Sangha. Voilà. Mais il y a les personnes qui préfèrent être seules avec le lama pour prendre refuge, c'est possible aussi. Hein, il n'y a pas de... En tout cas, personne ne peut forcer quiconque à prendre refuge. Hein, ça doit venir... Et par exemple, les enseignements ici, mais je ne demande pas que les personnes prennent refuge un jour, quoi. Ça vous regarde. Si vous voulez suivre les enseignements, approfondir votre compréhension du dharma... sans prendre refuge, mais vous avez le droit, quoi. Et sentez-vous à votre place ici, même si vous n'avez pas pris refuge, quoi. C'est complètement ouvert, ça.
Alors, j'ai une dernière question.
Ouais.
Si je prends refuge, mais que j'adhère pas à tout, est-ce que j'ai quand même le droit de prendre refuge?
Mais vous croyez que j'adhère à tout, moi?
Un chrétien ne peut pas communier s'il n'est pas d'accord avec tout.
Ah, oui,
par exemple, chez les catholiques.
C'est pas comme ça.
Donc, tu sais, est-ce que si on prend refuge, on peut prendre refuge en se disant, il y a des choses auxquelles je crois fondamentalement et de toute façon, je
crois
que c'est le but, mais je ne crois pas à tous les moyens que...
Mais bien sûr, bien sûr. Une des particularités du dharma, c'est de proposer une variété incroyable de moyens. Et c'est pour ça qu'il y a des écoles différentes, c'est pour ça que le zen ne ressemble pas grand-chose au vajrayana, mais pourtant, la base est la même, la finalité est la même. Après, c'est une question de moyens, le Dalai Lama a rappelé cela ce week-end. Il y a cette diversité de méthodes parce qu'il y a une diversité d'êtres. Tout le monde ne peut pas pratiquer de la même façon. Et il y a des éléments, mais auxquels ça a moins de sens pour nous, qui sont présents dans le dharma. Alors, ça ne veut pas dire que si je n'adhère pas à ces éléments-là, je dois les critiquer. Parce que d'autres personnes peuvent trouver dans ces éléments-là un moyen pour avancer. Et c'est pourquoi, par exemple, quand on pratique le dharma, on ne doit pas critiquer les autres voies spirituelles. Et le Dalai Lama l'a rappelé aussi, ça. Parce que si je ne suis plus en accord avec telle ou telle religion... Par exemple, moi, je suis d'origine catholique. Si je ne suis plus aujourd'hui en accord avec le christianisme, avec le catholicisme, il y en a pour qui c'est une voie. Et de libération, et de réalisation, etc. Donc, c'est à respecter. C'est valable, c'est à respecter. Mais je ne suis pas obligé de la suivre. Mais si je ne la suis pas, je ne dois pas la condamner ou la critiquer, etc. Ça, c'est très, très important aussi. Ouais.
Puis à la fois, ce phénomène de ritualisation qui est quand même très présent dans le bouddhisme tibétain, c'est aussi que des supports. Moi, j'ai compris.
Absolument.
Parce qu'il applique, enfin, moi, il me semble qu'il a fait une belle démonstration ce week-end au Dalai Lama, quand il parlait avec la cloche et qu'il a pris parti. Moi, j'ai trouvé ça épatant parce qu'il a tourné ça en dérision. Et je me suis dit, quel enseignement. Parce que ça sous-entendait qu'on n'était pas censé se coincer sur la cloche et sur le rajra et que ça ne représentait pas ce que ça matériellement parlant.
Il a expliqué ce que symbolisait la cloche, ce que symbolise le vajra, le dorje. Voilà, à partir du moment où vous avez ce symbole en tête et que vous en connaissez le sens, que vous mettiez la cloche ici ou le dorje là, etc., à la limite, peu importe. Hein, et comme il a dit, le damaru, il y en a qui jouent comme ça, il y en a d'autres qui jouent comme ça. Le mieux, c'est de ne pas s'en servir. Et bien sûr, et c'est exactement ce que vous dites, tout dans le bouddhisme tibétain, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on fait, etc., ce ne sont que des supports. Ah ben, je peux vous dire qu'il y en a qui sont attachés à leurs supports. Hein.
Oui, mais quand j'ai eu compris que c'était des supports, je trouve ça beaucoup plus léger. Parce que moi, effectivement, il n'y a pas très longtemps, hein, mais ce que je dis, au début, j'ai trouvé ça très compliqué. Je me dis, mais je ne vais jamais m'en sortir avec tout ça. Avant, j'étais plutôt dans le zen. Hein. C'est pareil, il y a plein de trucs.
Oui.
Je me dis, mais c'est quoi tous ces trucs? Enfin, je trouvais ça. Enfin, moi, vraiment, ça me prenait tout mon esprit. Hein. Et en fait, quand j'ai eu enfin compris que c'était que des supports, mais ça n'a plus d'importance, en fait.
Et voilà.
Ça devient secondaire, si on veut dire.
C'est-à-dire qu'il faut toujours garder le sens de ce support,
voir
ce qu'il y a derrière. C'est le propre du symbole. Qu'est-ce qu'il y a derrière le symbole? Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où je garde le sens, la forme elle-même du symbole, à ce moment-là, alors ça peut être un rappel. Ça peut être un rappel aussi. Mais même, dans le dharma, même les textes sont des supports. Ils ne sont que des supports. C'est une tradition orale, le dharma. Les textes ne sont qu'un support. Ce qui va primer, c'est l'expérience méditative. Est-ce que mon expérience authentifie le texte? Si elle ne l'authentifie pas, ça ne veut pas dire que l'expérience est mauvaise. Ça veut dire qu'il y a peut-être une erreur dans le texte. Et ça c'est très différent des voies spirituelles qui s'appuient sur le livre. Hein mais en 56, au dernier concile bouddhiste, il y a des textes qui ont été modifiés parce que des grands pratiquants sont venus dire « Moi, je ne vis pas ça, c'est pas ça. » C'est impensable, par exemple, dans les religions du livre. C'est le texte qui fait référence. Et si vous ne collez pas au texte, vous êtes dans l'erreur. Dans les traditions orales, non. C'est différent. Voilà, pour ce soir. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Vous rappelez peut-être, François, ou personne nouvelle, comment ça fonctionne, le tuning? Le tuning, comment ça fonctionne?
Ceux qui viennent pour la première fois, effectivement, ici a lieu l'enseignement avec Lama tous les mois, une fois par mois. Je ne sais pas si vous avez vu également à l'entrée, il y a la boîte d'offrande au Lama qui vient généreusement nous voir tous les mois, mais qui donc c'est essentiellement pour lui. D'autre part, je ne sais pas si vous savez, mais à Alus, il y a donc le centre où réside Lama et trois moines. Donc là également, ça c'est près de c'est près de Saint-Dié, enfin la sortie du tunnel de Saint-Dié. Et là, il y a également des Rinpoche, des fois qu'il y a Rinpoche qui vient, il y a des enseignements également, des week-ends où vous pouvez également assister. Il suffit de réserver sa chambre à ce moment-là, et puis voilà, et de s'inscrire. Je ne sais pas, il y avait autre chose, je vous avais donné, je ne sais pas.
Le thé.
Ah oui, je sais pas. Ben, la prochaine fois, moi, je ne serai pas là, malheureusement.
Moi, je
mais, ça, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est vrai que... donc, la cotisation, ben, aux nouveaux venus, je ne sais pas si vous reviendrez, si ça vous motive, ou... mais disons qu'après la deuxième, troisième visite, il y aura une cotisation à verser, et ça, il faudra que je vous donne à ce moment-là les montants... et puis la façon d'honorer finalement cette cotisation. Hein? Voilà. Des questions?